Voilà, je vous invite à la prière pour que le Seigneur puisse nous conduire dans sa parole. Père notre Dieu, nous te louons parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton esprit qui nous accompagne chaque jour, Seigneur. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et tu nous as donné ta parole, l'écriture. Seigneur, tu as dit que aucun trait de lettre ne passera, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Et nous croyons, Seigneur, que cette Bible est ta parole et nous voulons la consulter pour notre bien et pour notre édification, Père. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. On va descendre un tout petit peu. Je vous invite à trois lectures. Trois lectures, si je les retrouve. Où est-ce que je les ai mises ? J'ai mélangé mes papiers. Aïe. Il y a un papier que j'ai garé, mais ce n'est pas grave, je les connais par cœur. Dans Romains, chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, là, il y a une malédiction qui est prononcée sur ceux qui ne veulent pas voir alors qu'ils voient. Tout le monde voit la gloire de Dieu. Tout le monde sait, en regardant la création, que Dieu existe. Ne pas reconnaître, c'est entrer dans une malédiction. C'est-à-dire que nos regards sont plongés dans les ténèbres. Et on rentre dans les ténèbres. C'est pour ça que nous avons les cultes tous les dimanches où nous voulons glorifier Dieu, le remercier. Parce que c'est une chose juste, sage, raisonnable et qui nous ouvre les yeux. On est dans une bénédiction. Quand on loue, quand on glorifie Dieu pour qui il est, nos yeux s'ouvrent. Nous s'ouvrent à la connaissance et à la gloire de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 20, la parole de Dieu nous dit « Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé ?» Vous voyez, c'est grave dans le sens de... C'est un poids. Hein, c'est, Dieu n'a-t-il pas frappé ? Frappé de folie la sagesse du monde. Voyez-vous, l'importance que la parole de Dieu montre que Dieu a frappé de folie la sagesse du monde. Si on veut utiliser notre sagesse. Elle est maudite par Dieu. Parce que par la suite, Dieu montre que les hommes qui voulaient utiliser la sagesse pour comprendre Dieu, eh bien, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est le clouer sur la croix, alors que c'était leur sauveur. Voyez-vous, où amène la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, c'est parce qu'elle est frappée de folie. Donc faisons attention. Et ensuite, après, il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix, ça doit être le message qui doit être permanent pour un chrétien et pour une église, bien sûr. Dans Matthieu, chapitre 16, c'est un passage qu'il faut apprendre par cœur, mais je prends quand même le soin d'ouvrir la parole pour bien citer le bon passage, chapitre 16, verset 24. C'est le contexte de ce passage, c'est quand Jésus établit son Église. Il l'établit au verset 18. Au verset 18, il dit « Moi je suis, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Il n'y a qu'ici que Jésus utilise le mot « Église » et au chapitre 24, deux fois, c'est tout. Après le mot « Église », on le retrouve dans les Épîtres. Et là, au chapitre 16, toujours verset 24, Jésus se tourne vers ses disciples et dit « Si quelqu'un veut me suivre, ou si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Amen. Seigneur, bénis ta parole et qu'elle puisse ouvrir nos yeux sur les merveilles de ta grâce. Amen. Ce matin, j'aurais abordé un dernier message d'enseignement. Je sais que mes enseignements souvent sont très denses, excusez-en moi, parce que en fait, je reçois des révélations au fur et à mesure que je prépare, mais là j'arrive au terme de cette densité, et on va dédensifier pour que vous puissiez mettre en pratique, j'en ai parlé encore dans un groupe de maison avant-hier. C'est simplement parce que cet été, quand Dieu m'a demandé de regarder les réveils, étant donné qu'on prépare, enfin on a déjà commencé les 500 ans de l'année Luther, quand j'ai travaillé les réveils, je suis tombé sur le premier réveil évangélique, le premier grand réveil mondial, après la Réforme, au XVIIIe siècle, et j'ai découvert le mouvement de réveil conduit par Wesley Whitfield que je ne connaissais pas, si ce n'est que de nom. Et en m'y penchant, eh bien, je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui à ces conclusions que je vous apporte avec toute humilité. En même temps, je sais que certains voudraient que je donne ce genre d'enseignement dans des séminaires. Le problème des séminaires, je vous avouerai que ce qui est dommage, c'est que toute l'Assemblée ne vient pas dans les séminaires. Donc, ce n'est pas un reproche, mais c'est un constat. Et ça, c'est quelque chose qui concerne toute l'Assemblée. Tout un chacun qui vient ici doit savoir ça. Donc, après, on va dédensifier dans les groupes. Olivier va me faire une page web où je vais mettre des informations dessus. Au fur et à mesure que vous communiquez aussi vos attentes pour qu'on puisse le concrétiser dans des formes qui vous concernent de tous les jours, hein, tout ce qui est prêché dans ce que je viens de dire. L'idée, c'est que j'aimerais que l'Église se réveille. Il y en a qui veulent être réveillés ? Voilà, que l'Église se réveille. Parce que il n'y a rien de pire que d'être endormi spirituellement. Parce que quand on est endormi spirituellement, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut avec nous. Et ça, je ne voudrais pas que ça nous arrive. Le gros problème, c'est le mélange. Et on est tous dans des mélanges entre le christianisme et d'autres croyances. Et c'est ça que j'aimerais effectivement dénoncer avec la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la foi paradoxale. Paradoxe, un paradoxe, définition du paradoxe, c'est que deux affirmations sont vraies en même temps. Mais deux affirmations qui, a priori, sont contraires. Voilà, c'est ça un paradoxe. Donc la foi, elle est paradoxale. Parce que Dieu a voulu que la foi soit paradoxale pour qu'elle ne soit pas accessible à la sagesse humaine. Si la foi n'était pas paradoxale, on pourrait, par notre logique, par notre sagesse, accéder à la foi. Or, Dieu ne veut pas, parce qu'il veut que notre foi est en Dieu, et pas en nous. Il veut, parce que Dieu est tout autre. Il est en dehors de nous, il n'est pas en nous. Il est en dehors. Et il faut que nous rencontrons ce Dieu-là qui nous sauve et qui nous tient la main. J'aime cette image où une petite bande dessinée qui montre qu'un singe tombe dans un marais, comment ça s'appelle, qui est sable mouvant. Vous savez, les sables mouvants, plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. Voilà. Et ce petit singe, en fait, il est tellement orgueilleux qu'il y a des gens sur le rivage, mais il veut s'en sortir tout seul. Alors il essaie tout un tas de moyens, il se débat, et il tombe de plus en plus dans le sable. Et à la fin, il lui reste juste ça qui lui reste, et là il tire sur ses moustaches en espérant s'en sortir. Vous voyez, voilà. Alors qu'il suffirait qu'il tende la main de quelqu'un qui est sur du pied ferme pour s'en sortir. Et c'est souvent, et c'est ça le salut, hein, l'homme veut se sauver soi-même. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'enfonce et il ne s'en sort plus. Dieu nous a tendu la main en Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre et il nous tend la main. Il dit « Est-ce que tu veux être sauvé ?» Et il nous tire, parce que lui, il est sur le rocher. Jésus, l'Église, est bâtie sur le roc. Amen. Oui. Pas sur un caillou, sur le roc. Pierre, c'est le caillou. Jésus, c'est le roc. Et lui, quand il nous tire, et on s'en sort. Mais si nous tirons sur le moustache, tout ce que nous pouvons, c'est nous faire du mal. Mais en tout cas, on va sombrer et on va terminer dans la mort. Voilà un petit peu l'image que je vois. Et la foi qui est paradoxale, Jésus, il l'enseigne à ses disciples. Il dit, celui qui trouvera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie la trouvera. Oui, ou perdre, vous voyez, quand je perds quelque chose, et que je trouve quelque chose, c'est quand même deux choses contradictoires. Vous êtes d'accord? Eh bien, les deux sont vrais pour obtenir la vie. Alors, le problème, c'est que, bien sûr, sans révélation, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est que la foi paradoxale. Alors, une des choses qu'il faut, c'est ne pas chercher avec son intelligence à la comprendre, mais c'est à l'expérimenter. Et ce livre m'a ouvert les yeux il y a quelque temps, j'en ai acheté plusieurs pour vous les donner gratuitement, parce que c'est pas très cher, mais c'est vers une nouvelle expérience de Dieu. Et Christian Schwartz, dans cet essai, qui renvoie à des théologies, bien sûr, beaucoup plus approfondies, mais il a voulu le mettre à la portée de chacun, a montré que le christianisme, depuis son origine, n'a pas compris qu'il faut expérimenter Dieu. Parce que Dieu, est-ce que quelqu'un dans la salle a vu Dieu? Je ne vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Parce qu'il est dit que la parole de Dieu dit, voir Dieu, c'est mourir. On ne pourrait pas voir Dieu dans l'état où nous sommes. Il nous faut un nouveau corps pour que nous puissions voir Dieu. Donc, Dieu, on peut le connaître en l'expérimentant. Et en expérimentant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, c'est l'expérimentation de Dieu qui nous permet de le connaître. Et c'est un petit peu tout le développement de ce petit fascicule. Or, les chrétiens, souvent, ils ont trois dieux. Ils ont Dieu le Père. Donc, il y a une catégorie qui adore Dieu le Père, d'autres une catégorie Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça, ça crée les problèmes de division dans les dénominations, problèmes de division depuis le début. Et donc, du coup, il n'y a pas d'efficacité dans le royaume. Parce qu'on passe beaucoup de temps à se critiquer les uns les autres et à ne pas marcher dans l'unité. Donc, l'idée, c'est d'adorer un seul Dieu, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Et là, c'est tout l'enjeu de la foi paradoxale. La foi paradoxale passe par la compréhension du Dieu trinitaire, Dieu un en trois, trois personnes. Mais aussi par l'évangile qui est quadruple. Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui présente Jésus dans trois aspects de trois ministères que Dieu a exercés sur la terre. Et ces ministères renvoient à nous, parce que nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Vous avez déjà vu un corps où la tête est d'un côté et le corps de l'autre ? Ça s'appelle une décapitation. Ok ? C'est pas une personne. Or, nous sommes le corps, dont Christ est la tête. Donc ça fait un, ça fait une personne. Ce qui fait que les quatre évangiles qui renvoient à Jésus renvoient aussi à nous. Et donc renvoient au fameux tétramorphe d'Ézéchiel. Je sais que beaucoup de chrétiens veulent des choses très concrètes. Il n'y a rien de plus concret que le tétramorphe. Si vous arrêtez pas juste au mot. Hein. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, désolé. C'est les chrétiens qui m'ont précédé, qui l'ont appelé comme ça, parce que c'est quatre. Quatre morphes, c'est des formes. Quatre formes que Ézéchiel a vu, c'est des réalités qu'il a vues, qui soutiennent le trône de Dieu. Et nous, en tant qu'Église, nous devrions soutenir le trône de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà. Et donc, si nous comprenons cette réalité spirituelle, bien sûr, elle n'est pas visible, spirituelle, nous avons du sens dans notre vie chrétienne. Et j'aimerais que vous ayez du sens pour votre vie. Pas juste, voilà, métro, boulot, dodo, mais du sens à ce que vous faites. Et si vous comprenez que vous êtes, et vous êtes, vous devez être le fameux tétramorphe, ça va vous donner du sens à votre vie chrétienne et vous pourrez combattre les difficultés quotidiennes de votre vie chrétienne. Voilà, donc, 3, 4, Trinité et tétramorphe ou évangile quadruple. Je vous ai rappelé, ça c'est juste un petit rappel, que l'origine de l'humanité redémarre à Noé, puisque Dieu a provoqué le déluge, qui a éliminé toute l'humanité précédente et recommencé à zéro. Par contre, il a dit qu'il ne le fera plus jamais. Donc aujourd'hui, on repart avec Noé. Et Noé, il avait trois fils. Vous voyez ? Là, c'est Noé, trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et ce que je voulais juste avec ça, et ma prétention ne va pas plus loin que ça, vous montrer que dès l'origine, les humains se posaient la question de l'existence de Dieu. Ce n'était pas des Français, hein, bon, c'était des humains normaux qui savaient qu'ils n'étaient pas là par hasard. Donc ils cherchaient un sens à leur vie et ce qu'on appelle une croyance. Donc ils ont cherché. Et en fait, il y a trois types de croyances qui ont été développées et qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes nos civilisations, bien qu'elles soient mélangées, parce que Sem, ici, qui est là, en fait, ils vivaient tous dans la région de Babylone, et quand Babylone, Dieu a dispersé les humains, ils se sont répandus sur la surface de la terre. Ça, c'est l'histoire qui nous est racontée par la Bible. Et donc, ces trois personnages qui avaient derrière eux des familles, etc., ils ont créé des civilisations qui ensuite, aujourd'hui, maintenant, peuplent toute la terre. Donc ces croyances se sont mélangées. Vous êtes d'accord ? Donc vous trouvez ces croyances un peu partout, mélangées les unes aux autres. Mais c'est important que vous connaissiez la racine de la croyance de départ, parce que vous pouvez identifier après dans vos propres croyances et dans vos propres cultures, parce que ça, c'est l'origine des cultures. La culture, la spiritualité est à la base de la culture. La croyance est à la base d'une culture. Okay. Et donc, ces trois croyances, c'est important de les savoir. Et Sem, dans les Sémites, qui ont vécu dans l'Euphrate, aujourd'hui c'est l'Irak, et ils ont été frappés par les astres, par l'univers qui se déployait devant eux, parce qu'on a une très grande visibilité, hein, c'est pas comme en Chine où on voit pas les étoiles parce qu'à cause de la pollution. Non, là-bas, on voyait les astres. Hein, et il n'y avait pas beaucoup de nuages, hein, c'est très sec et tout. Et donc, ils ont vu ce ciel étoilé et ils croyaient que les divinités étaient dans les astres et qu'en plus, ces astres, c'était des dieux, ils contrôlaient leur vie. Donc, l'astronomie a conduit à l'astrologie. Et les mages, qui sont venus à Noël d'Orient, eh bien, ils ont suivi justement l'étoile parce qu'ils étaient sensibles à tout ce qui se passait dans le ciel. Et donc, l'astrologie, aujourd'hui, est de cette source, vous voyez, qui est antique, qui fait des millénaires que ça existe. La deuxième source de croyance, c'est la croyance où, sur la Terre, il y a des... La divinité se trouve sur la Terre. Donc, c'est l'animisme. Alors, les Africains connaissent très bien ça. Nous, on n'est pas... Encore que... Les Celtes, hein, ils le croyaient aussi, les Druides aussi, sauf que c'est un peu lointain, puisque entre-temps, il y a eu la christianisation de l'Europe et de la Gaule. Donc on n'est plus. Mais ça revient au galop. Hein. Aujourd'hui, la déchristianisation fait qu'on veut revenir. Vous savez que les nazis, Hitler et tout ça, ils se sont appuyés justement sur ces dieux, Wotan, etc. Pour réinstaurer le nazisme. Vous voyez. On s'appuie toujours sur des puissances maléfiques, mais soi-disant, c'est la nature. En fait, derrière, c'est ces esprits qui agissent, parce que derrière les croyances, il y a les démons. Et donc là, c'est les magiciens, hein, l'alchimie et la magie. Et Japhet, qui renvoie à la Grèce, a développé la philosophie, le rationalisme et les maîtres de sagesse. C'est pour ça que la Bible dit que les Grecs cherchent la sagesse. Donc ces trois... le rationalisme, c'est la raison humaine, c'est l'intelligence humaine qui peut accéder à Dieu par l'intelligence. Et ça, c'est l'origine de toutes les croyances. Après, vous les mélangez, vous avez toute forme de polythéisme d'action, disons, sur la vie courante. Le problème, c'est que les chrétiens, quand ils sont devenus chrétiens, ils n'ont pas abandonné. Abraham, vous voyez, Abraham, qui est sorti de la tribu de Sem, il a été appelé par Dieu, il est parti en Canaan. Il a abandonné sa famille, il a abandonné ses sources de croyances et il a suivi Dieu. Et Dieu a dit, c'est parce que tu as cru que tu seras le père des croyants. Et nous sommes au bénéfice de la foi d'Abraham. Parce qu'il a cru en Dieu dans sa parole et il a agi selon cette parole. Mais très souvent, on n'abandonne pas, non pas consciemment, hein, mais inconsciemment, certaines croyances dont nous sommes issus naturellement. Et donc, les chrétiens font ce qu'on appelle du syncrétisme, un mélange entre l'enseignement chrétien, l'écriture, et ils le mélangent à toutes ces croyances dont ils sont issus. Voilà, un petit peu de ça, un petit peu de ça, etc. Alors que le christianisme est révélé. Il n'est pas issu d'une recherche de la divinité par soi-même, ce qui est le cas de ces croyances païennes. Voilà, je voulais juste faire un rappel pourquoi je vous ai fait ça, pour pas vous inonder avec toutes les croyances qui existent, parce que sinon On en aurait pour toute une journée à tout lister, tellement il y a des croyances différentes mélangées. Voilà, ça c'est l'origine, et vous retrouvez tout ça dès que vous commencez à sonder un petit peu ce qu'il y a autour de vous. La deuxième enseignement un peu dense que j'ai fait, c'est le fameux tétramorphe, le quadrilatère de Wesley, enfin pas de Wesley puisque il n'a pas enseigné, hein, c'est pas lui qui l'a enseigné. C'est 2 siècles après, quand on a analysé ses 50 000 sermons, qu'on a vu que ce qu'il prêchait, c'était globalement équilibré dans l'ensemble de ces 4 domaines. Et donc c'est une foi harmonieuse, une foi quadruple harmonieuse. Cette foi, c'est la foi. Hein. Si vous n'avez pas compris que le quadrilatère wesleyen, c'est la foi, c'est la foi. C'est la foi d'Hébreux 11 qui dit que la foi, c'est l'appropriation des réalités de Dieu. C'est l'appropriation des réalités, qu'elles soient visibles. Hein, je vais aller trop vite. C'est je vois la réalité selon les 4 points cardinaux. Alors bon, il y a un peu trop de lumière, je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est, je ne sais pas sur quel pic ça a été fait, hein, un ensemble de verres ici, sur lequel vous voyez toutes les chaînes de montagnes dans les Alpes. Moi, je n'aimerais pas être là parce que j'ai le vertige, mais vous voyez tout en dessous parce que vous êtes dans un truc de verre. La foi, c'est ça. La foi, c'est comme dans une maison de verre où vous voyez à 360 degrés toutes les réalités de Dieu. Mais très souvent, la foi, on ne voit qu'un aspect de la réalité invisible. C'est vrai que la réalité invisible existe. Les démons, les anges, tout ce qui existe, que vous ne voyez pas, auquel il faut croire, et que Dieu nous révèle, mais en même temps, il nous dit de ne pas y toucher. Voyez, il nous révèle que ça existe, mais il dit de ne pas y toucher. Et des chrétiens qui y touchent. Donc là, c'est de la désobéissance. Mais on voit parce que Dieu nous le révèle. Mais il met pas d'emphase sur ces choses-là, hein. Contrairement à d'autres livres qui sont très prolifiques dans les choses un peu occultes. Il dit, ça existe, l'occulte, mais il ne faut pas y toucher. Donc l'invisible nous est présenté. Quand vous regardez ici, vous voyez la réalité de la création, comme on l'a vu tout à l'heure, la réalité de la création visible. Ça, c'est la science. La science n'est pas démoniaque. La science, avec un raisonnement logique, inductif, permet de trouver les lois. Hein, je ne vais pas faire tomber ça parce que je vais le casser, mais je parie ma tête à couper que ça va tomber. Pourquoi ? Parce que c'est une loi. Vous voyez ? Donc c'est pas démoniaque. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens, vous voyez, quand ils ont inventé le vélo, ils ont dit que c'est démoniaque. Quand ils ont inventé le train à vapeur, c'est démoniaque. Vous voyez ? Tout de suite, c'est démoniaque. Voilà. Bon, attends, arrêtons. La science, c'est simplement la découverte de les merveilles de Dieu. Ok ? Je parle des sciences dures, hein, pas des sciences molles, psychologie ou autre. Bien qu'il y ait aussi du bon latin. Donc la réalité visible, réalité invisible, réalité visible. Si je tourne, eh bien je vois, donc ici, vous voyez, j'ai mis réalité objective, visible, invisible, et réalité subjective, c'est-à-dire son sujet. Si je me tourne, moi, je peux faire l'expérience de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté la vie de Dieu dans leur vie. Amen. J'espère pour vous, parce que c'est ça qui fait un chrétien confessant et pas un chrétien qui va à l'église par obligation, une religion. Donc vous voyez, la réalité personnelle, subjective, est très importante dans la connaissance de Dieu. Je dois connaître Dieu personnellement par révélation et par... voilà. Et aussi une révélation subjective communautaire. Aujourd'hui, on oublie beaucoup la communauté, les institutions, tout ça, parce qu'on n'en veut plus, parce qu'ils nous ont déçus, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous ont déçus que ça n'existe pas. La communauté, le principe même du corps de Christ, est une communauté. Donc, le refuser sous prétexte qu'il y a des... Bon, on peut avoir tous les prétextes qu'on veut. Hein. Mais n'empêche que la communauté, c'est quelque chose que Dieu a créé. Le corps de Christ, c'est une communauté. Et donc la tradition... Donc vous avez ici le quadrilatère de Wesley, enfin wesleyen, pardon, pas de Wesley, wesleyen, qui est que la foi, enfin l'essentiel de la foi, est révélé dans les Écritures, qui nous révèle tout ce qu'on ne voit pas, mais qui existe, et qu'on doit croire par la foi. L'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures, elle est éclairée par la tradition. Tradition, c'est notre confession de foi, c'est ce que, en tant que communauté, nous croyons, alors qu'il y a beaucoup de confessions de foi, hein, beaucoup de dénominations, des confessions de foi différentes. Donc la tradition, elle est vivifiée par l'expérience que je fais avec Dieu, personnellement, et elle est confirmée par la raison. La raison ne peut pas dire le contraire, parce qu'elle approuve, elle conclut simplement en disant « c'est vrai, toutes ces choses sont des merveilles de Dieu qui ont été faites pour l'humanité ». Nous arrivons à la foi paradoxale aujourd'hui. Foi paradoxale, comme je l'ai dit, c'est Matthieu 16, 24, « trouver et perdre en même temps ». Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que la foi précédente dont j'ai parlé, beaucoup s'en sont écartés. Et la foi paradoxale aussi, beaucoup s'en écartent parce que on ne peut pas la vivre humainement. Il faut la vivre par l'aide du Saint-Esprit. Et je vous verrai pourquoi le christianisme n'arrive pas à le vivre. Et c'est pour ça que c'est un défi, c'est un challenge. Jésus a fait ce challenge aux disciples. Il a dit, vous, si vous voulez me suivre, vous devez vivre de cette manière-là. Alors on va voir la foi paradoxale. C'est donc Christian Schwartz qui l'explique bien dans son livre. La foi paradoxale est basée sur le fait que Dieu se manifeste en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il y a trois types d'interprétations qui ont été faites depuis 2000 ans. De cette Trinité. Il y a eu le Concile Nicée qui a dit voilà ce que c'est que Dieu, trinitaire, etc. Mais en fait, ce que je ne savais pas, et je l'ai découvert aussi en faisant cette préparation, c'est qu'en fait, il y a eu deux façons d'interpréter cette Trinité. C'est la façon occidentale, on verra tout à l'heure, et la façon orientale. Occidentale, c'est les latins, c'est le catholicisme, le protestantisme, qui a insisté sur l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ qui s'appuie sur le péché. Nous sommes pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous devons être rachetés. Et nous sommes rachetés par le sang de Christ. Donc c'est juste. C'est juste, mais ce n'est pas tout. Mais en insistant là-dessus, on insiste sur la culpabilité. Nous sommes coupables d'avoir péché. Et quand on insiste que là-dessus, on rentre dans la culpabilité. Et il y en a beaucoup qui disent avec juste raison, dont Jean-Marc Taubois dans un de ses enseignements, il dit que l'Occident est toujours dans la culpabilité. Et donc dans cette culpabilité, en fait, on est pessimiste. On ne pense qu'à perdre. On ne pense qu'au mot perdre. Voyez, et le mot perdre amène le pessimisme. Le protestantisme aussi, qui a lutté contre le catholicisme, a insisté sur le péché et la grâce. Et toute la théologie est basée là-dessus. Il y a un autre pan du christianisme qui insistait sur l'aspect trouvé. Et ce sont les orthodoxes, que je ne connaissais pas bien, et j'ai dû m'atteler un peu à voir leur théologie. Et là, j'étais frappé, je n'ai pas fait, de voir qu'eux, ils s'appuient sur la vie et sur l'énergie, à tel point que ça fait un peu froid dans le dos quand on lit, par exemple, une lecture, je ne sais pas si je l'ai emmenée, parce que là, visiblement, il y a un petit mélange dans mes papiers, je ne sais pas si je l'ai là. Non, j'ai l'impression que je ne l'ai pas emmenée. Voilà, bon, c'est pas grave, ça me permettra d'aller plus vite. Voilà, mais dans leur théologie, ils disent que l'homme peut se déifier, c'est-à-dire peut devenir Dieu. Et c'est marqué en toutes lettres. Il peut devenir Dieu parce que, effectivement, la vie du Saint-Esprit, la vie que Dieu est venu donner aux hommes, peut effectivement les faire devenir Dieu. Alors, bien sûr, ça fait froid, mais c'est dans leur doctrine. Vous pouvez imaginer effectivement où ça mène quand on va trop loin. Il s'appuie sur des versets qui disent que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Donc comme Christ est en vous, eh bien vous pouvez faire les œuvres de Dieu. Vous pouvez faire les œuvres de Christ. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ils insistent là-dessus. Et du coup, ils s'opposent au catholicisme et au protestantisme, qui dit non, vous incitez trop, vous culpabilisez les gens, alors qu'il y a la vie qui doit être là. Vous voyez, les deux sont vrais. Ils appuient sur ce qu'on appelle une pneumatologie, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit. Ils sont beaucoup appuyés sur le Saint-Esprit, et l'autre, c'est sur Christ. En fait, ce qu'il faut, c'est être dans le quadrilatère wesleyen, c'est-à-dire les deux sont vrais. Les deux sont vrais, donc il faut que les deux soient manifestés. Et ça, c'est l'Église primitive. Jusqu'au IVe siècle, l'Église primitive a vécu ça. Je n'appellerai pas cet équilibre, parce que ce n'est pas un équilibre, c'est en fait les deux en même temps. C'est l'œuvre de la croix en tant que, disons, libération du péché et la vie du Saint-Esprit, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas évident quand je vous le dis comme ça. Mais tout ça, c'est depuis 2000 ans qu'il y a deux sortes de christianisme qui partent dans la dérive. Et aujourd'hui, l'Église évangélique est là le même défi. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle évangélique qu'on n'a pas le même défi. Le défi est toujours là. Est-ce que nous pouvons rester dans ce paradoxe où on utilise la foi le mot perdre et dans le mot trouver. Vous voyez, les catholiques et les protestants sont partis à la dérive en allant tellement loin qu'effectivement, ils sont partis pour vivre uniquement la question de la culpabilité et du perdre. Et les orthodoxes et les catholiques mystiques, parce qu'en fait, ils sont des deux côtés, avec Catherine de Sienne, avec tout Jean de la Croix, etc. Eh bien, ils ont rejoint les orthodoxes. Donc, en fait, ils sont des deux côtés. C'est pour ça que les catholiques, vous trouvez tout. Mais c'est surtout les orthodoxes qui vivent ça et qui vont dans ce sens-là, et qui d'ailleurs critiquent effectivement le christianisme occidental. Les évangéliques, eh bien, on les retrouve parce que c'est les anti-charismatiques, eh bien, ils sont là. Et les ultra-charismatiques, anti-dogmatiques, sont là. Donc, vous voyez, on n'invente rien. On refait simplement l'histoire qui existe. Et comme Churchill disait, l'histoire n'apprend qu'une chose, elle n'apprend rien. Donc, il vaut mieux apprendre de l'histoire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. L'influence des croyances païennes, parce qu'elles sont là. Pourquoi ces dérives? Parce que Satan ne veut pas qu'on soit disciple de Jésus. Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, si vous voulez me suivre, voilà, il faut trouver et perdre. Vous voyez, là, c'est les deux trucs rouges, ce sont les croyances païennes. Alors, d'une part, ici, c'est le rationalisme, la maçonnerie, les francs-maçons, les élitistes scientifiques, la maîtrise, le gnosticisme rationaliste, le libéralisme dogmatique. Toutes ces croyances sont aujourd'hui présentes dans le monde et attirent vers elles, y compris les chrétiens, puisque nous sommes faits de la même chair que le système du monde. De l'autre côté, nous avons le panthéisme, qui aussi est transmis par la Rose-Croix, la transmutation, la transfiguration, ça c'est les termes orthodoxes qui sont utilisés, on peut être transfiguré, le gnosticisme spirituel et le libéralisme mystique. Et, vous voyez, les deux tendances ici, les chrétiens ont été attirés par là, et les autres ont été attirés par là, Occident, Orient. Et les évangéliques, qui se sont refondés ici à la Réforme et au XVIIIe siècle, ben repartent dans la même direction, ce qui est tout à fait logique, puisqu'ils sont faits de la même chair. Alors, les trois traditions. Il y a trois traditions des pères de l'Église. Il y a Irénée de Lyon. Il se trouve qu'il était à Lyon. Au IIe siècle, donc pratiquement, il a pratiquement connu l'apôtre Jean. Il y avait juste un apôtre entre les deux. Et lui, au IIe siècle, c'est lui qui a choisi les évangiles, les quatre évangiles qui sont dans nos Bibles, pour justement, il a eu cette inspiration. Donc dans les premiers temps, les pères, dont d'autres qu'Irénée, ont défini cette foi paradoxale où il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui donnent une description de Jésus du ministère de manière harmonieuse. Ici, je vous ai donné quelques-uns, hein, mais il y en a au moins une vingtaine qu'il faudrait citer, des pères de l'Église, à partir du IVe siècle. Au IVe siècle, les choses ont commencé à dériver. Parce que c'est lié à l'histoire aussi. Ici, vous avez saint Augustin, Tertullien qui était un peu avant, saint Augustin et Pélage. Alors, il y a eu un... Ça continue d'ailleurs, toujours un combat entre Pélage et Augustin qui demeure. Pélage a surtout dit, ben voilà, il faut exercer aussi la vertu pour servir le Seigneur. Et Augustin a dit non, c'est que la grâce, que la grâce. Et Tertullien. Et ici, on est des gens qui utilisaient le latin. Augustin, par exemple, ne connaissait plus le grec. Donc, et il utilisait le latin, ce qui fait qu'il n'a plus discuté, dialogué avec les orthodoxes, qui de l'autre côté, vous allez voir, qui vont apparaître, qui sont grecs. Et du coup, il a développé cette théologie dans ce sens-là, qui a donné toute la naissance de la théologie catholique et protestante. Calvin, Augustin, c'était son livre de chevet, c'était la théologie de base des réformés. Et donc, l'Occident latin a développé la doctrine du Fils, ce qu'on appelle la Christologie. Logie, c'est science, hein, science de Christ, voilà, Christologie. En théologie, ils ont développé à fond la doctrine du Christ, et qui se base sur le péché, puisque Jésus est venu pour le péché, ce qui est tout à fait juste. Le péché originel et le mot perdre. Donc, ils ont insisté sur l'aspect perdre. Et donc, c'est devenu un christianisme pessimiste. De l'autre côté, on a l'Orient. L'Orient, à partir de Constantinople, Byzance, vous avez l'Orient qui va complètement à droite. Et l'Orient est tourné vers l'intérieur de soi. C'est plutôt un aspect féminin et l'Occident plutôt un aspect masculin vers l'extérieur. Et là, vous avez Origène, Basile le Grand, Grégoire de Nyssens, etc., qui ont développé des théologies qui sont basées sur la doctrine du Saint-Esprit, ce qu'on appelle pneuma. Pneuma, c'est Saint-Esprit. Pneuma, la science de l'esprit, pneumatologie. Et ils ont insisté sur la vie, trouver la vie. Au point de dire, j'ai plus le texte ici, mais je le mettrai sur Internet, que effectivement, l'homme peut se déifier, peut être déifié, peut devenir Dieu. Et c'est vraiment dans les racines orthodoxes de cette théologie. Et au centre, il y a ceux qui veulent vivre cette... À chaque fois que j'essaie d'utiliser le mot équilibre, c'est pas équilibre, c'est le paradoxe de l'évangile quadruple, qui est apostolique. Et donc vous avez Irénée là, mais vous avez Wesley qui justement est revenu à cela au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au premier réveil dont j'ai parlé après la réforme au XVIIIe siècle, et qui aujourd'hui est transcrit aussi par Georges Ladd dans la nouvelle théologie du royaume, qui est sortie en 1975. Il y a donc deux types de chrétiens qui s'opposent et se construisent les uns contre les autres. Voyez-vous ? Les premiers, alors que les premiers chrétiens ils vivaient, du 1er au 4e siècle, ils vivaient ce paradoxe. En plus, ils étaient persécutés. Donc, ils n'avaient pas le choix de faire tout un tas de théologies, un tas de trucs, etc. Voilà, ils voulaient juste sauver leur peau et rester chrétiens. Et donc, ils sont restés sur cette foi paradoxale. Et au 18e siècle, donc, ça a été retrouvé... Je ne suis pas du tout accroché à Wesley, je ne connais pas. Je dirais, s'il faut rendre hommage à quelqu'un, c'est à Suzanne Wesley, c'est à sa mère. Parce que si Wesley était comme il est, d'ailleurs son frère a eu la même importance que lui, c'est parce que sa mère, Suzanne, s'est occupée de ses enfants, a cherché la destinée de ses enfants, et comme je vous l'ai dit, avait une méthode, très méthodique, et c'est pour ça qu'ils appellent les méthodistes. Je ne reviens plus là-dessus. Mais vous avez les deux formes de où on s'éloigne de cet évangile, hein, cette foi paradoxale, qui sont la préoccupation du rapport péché-grâce qui est surtout basé sur la culpabilité, et là, l'immortalité, la grâce, la déification, les orthodoxes et les catholiques mystiques. Quelque chose qui a changé beaucoup, c'est quand Constantinople est tombée. en 1453. Quand Constantinople est tombée, il y avait des livres qui s'appelaient des livres ésotériques hermétistes et qui ont été tout de suite sauvés parce que les Ottomans, les Arabes, déjà à l'époque, ont pris la ville. Et c'est comme de Médicis à Florence qui les a récupérés et qui les a fait traduire. Et c'est là que est née la Kabbale mystique chrétienne. Il y avait la Kabbale juive qui a été écrite à Babylone, la déportation, et là c'est la Kabbale mystique qui a permis de développer les Rose-Croix, les francs-maçons, etc., du côté protestant, francs-maçons, Rose-Croix chez les autres. C'est-à-dire devenir Dieu par soi-même. Ici, se développait le radicalisme protestant, libéralisme et laïciste. Laïcisme, d'ailleurs, c'est contre les religions. Ce n'est pas ouvert à toutes les religions, c'est contre. C'est contre le catholicisme, en fait, en France. Et de l'autre côté, alors donc, ici aussi, les évangéliques sont partis dans les anti-charismatiques, hein, qui suivent un peu la même ligne, parce qu'ils ont peur de la vie de l'esprit, ils ont peur des manifestations, ils ont peur de tout ça. Et de l'autre côté, on a les... Alors, il y a quelque chose qui ne sort pas. Ah, voilà, non. C'est les évangéliques pro-charismatiques qui, eux, insistent sur la vie de l'esprit, sur les manifestations, sur tout ça, comme le font les orthodoxes. Les rapports du christianisme et de la politique, parce que malheureusement, la politique se mêle avec tout ça. Les premiers chrétiens, ils ne pouvaient pas se baser sur la politique, ils étaient envoyés dans les arènes pour être mangés aux lions. Hein, malheureusement, ils étaient persécutés. Donc, ils ne faisaient pas de politique. Par contre, quand il y a eu la chute de Rome, 1410, ça fait un choc, au 5e siècle, fait un choc, Saint-Augustin à l'époque, qui a dit c'est pas possible que des chrétiens, parce qu'à l'époque, Rome était chrétienne, puisque quelques années avant, Constantin s'est converti et tout le royaume est devenu chrétien. Il n'a pas compris que Rome peut chuter par une invasion barbare. Comment Dieu ne protège pas sa ville, vous voyez ? Donc c'était un choc. Et donc il y a une reprise en main ici du politique, en particulier avec Clovis. Quand Clovis s'est converti, tout de suite l'Église catholique a fait un pacte pour régner en même temps Église et politique. Donc ici, il y a le christianisme occidental qui s'est développé avec le Saint-Empire romain germanique, au début Charlemagne, ensuite après Charles Quint. Et c'est le pouvoir des papes. Parce que comme à Rome, il n'y avait plus d'empereur, c'est le pape qui a pris par siège vacant, Pontifex Maximus, c'est-à-dire c'est le pontife maximum qui a les deux rôles, politique et spirituel, pour que l'Empire puisse continuer à vivre. De l'autre côté, c'est le christianisme oriental, le pouvoir des patriarches. Patriarche de Constantinople, tous les autres patriarches maintenant qui sont orthodoxes en Russie, etc., qui aussi ont un pouvoir spirituel et temporel. Voyez-vous, l'idée de couvrir un pouvoir temporel, eh bien, c'est aussi le début de la dérive spirituelle. En 1054, il y a eu un schisme entre les catholiques et les orthodoxes sur justement la question de la Trinité, où les orthodoxes ont dit le Saint-Esprit procède du Père seul, alors que les catholiques disaient il procède du Père et du Fils, c'est ce qu'on appelle le filioque. Et là, il y a eu séparation et accentuation de chaque côté. Il n'y a plus eu cette confrontation paradoxale où les deux sont vrais et chacun campait sur ses positions et du coup, il y a des rives. Et le pape excommunie les orthodoxes. C'est pour ça qu'il a dû revenir récemment sur cette excommunication puisqu'il les a exclus de la communion. Chute, voyez-vous, à chaque fois qu'il y a des chutes, il y a quelque chose qui se passe du côté spirituel. Chute de Constantinople en 1453 par les Arabes qui ont repris donc le pouvoir ottoman. Et bien là, l'ennemi a sorti la Kabbale juive qui a été transférée en Occident, à Venise, à Florence, pardon, et qui ensuite après donnait lieu au Kabbale mystique. Et vous avez vu fleurir, et on voit fleurir après, dans le christianisme occidental, toutes les vues sur le mysticisme. Ensuite, il y a eu la réforme et la contre-réforme, puisque l'Église s'est réformée aussi, l'Église catholique s'est réformée. Et au XVIIIe siècle, qui est le siècle où justement les évangéliques, parce que tous les évangéliques ont leur racine au XVIIIe siècle, hein, puisque dans le réveil du XVIIIe siècle, il y a la notion des piétismes, des moraves, qui ont remis en selle l'expérience personnelle, l'expérience du Dieu personnel. Alors que dans la réforme protestante, c'était le mot juste, la phrase juste. C'est-à-dire, il faut dire « Jésus-Christ m'a sauvé ». Donc, c'est basé sur du juridique. Voyez-vous, c'est très sec, c'est juridique. Si c'est vrai, voilà. Donc, il n'y avait pas l'expérience personnelle. Donc, c'était rajouté, l'expérience personnelle, et la tradition évangélique, et la raison que, effectivement, le XIXe siècle a réinstauré, que la raison doit confirmer la foi. Et la chute des royaumes de droit chrétien, cette fois-ci, donc en 1789 en France, a donné lieu à la République éclairée des lumières de la raison. Donc c'est la raison qui a été établie comme étant le juge de paix pour éclairer le monde, éclairer les hommes, parce qu'il y a une faillite du christianisme qui a été décrétée ici, effectivement, parce qu'ils n'ont pas réussi. Le christianisme a montrer que c'est une solution à l'humanité. Rappelez-vous que Louis XIV disait « Il serait bon quand même que l'archevêque de Paris croie en Dieu. » Quand vous en êtes là, ça montre un peu où l'Église en est arrivée. Donc ici, ça donne lieu à un christianisme rationaliste et syncrétique, et là, un christianisme mystique et syncrétique. Syncrétique, ça veut dire mélange. Donc on mélange ce que je vous ai dit, là, les sèmes jamais déjà faites, toutes les croyances sont mélangées et sont rentrées dans le christianisme. C'est pour ça qu'il perd sa force. La parole de Dieu dit qu'ils garderont la forme, mais ils perdront la force. La force du christianisme, c'est la croix, c'est la foi paradoxale, c'est perdre et trouver en même temps. Et au XXe siècle, il y a eu la chute des empires et l'avènement du totalitarisme. Voyez-vous, on dégrade, disons, les systèmes politiques en même temps qu'on dégrade les systèmes chrétiens qui n'ont plus d'influence, qui ne peuvent plus remettre le politique sur la bonne place. Voilà. Je voulais... c'est très dense, hein, je suis d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, je vais mettre ça sur Internet, Olivier m'a aidé, et on va traduire ça de manière très concrète. La concrétisation, c'est vous qui le trouverez. Parce que vous verrez dans tout ce que vous voyez autour de vous, les livres, les films, les émissions radio, les choses comme ça, comment vous vous êtes influencé pour entrer dans ce syncrétisme. C'est ce qu'on appelle la religion mondiale du Nouvel Âge, qui veut mélanger le christianisme à toutes ces fausses croyances pour que le chrétien n'ait plus aucune force. Parce que la seule force que nous avons, c'est lorsque nous sommes appuyés sur la croix. Et la croix nécessite un renoncement, mais aussi accepter la vie du Saint-Esprit, la mort et la résurrection. Okay. C'est pas que d'un côté, parce que d'un côté on va devenir pessimiste, rester dans la culpabilité, de l'autre côté on va chercher à se déifier. Non, le Seigneur nous donne de pouvoir renoncer à notre vie ancienne pour recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je continue à renoncer à telle chose dans ma vie, et c'est pour ça que j'aime bien le torrent qui purifie, parce que toutes les préparations de la retraite sont dans ce sens-là. Se confier au Seigneur, marcher par l'esprit et pas par la chair. La chair, c'est ça. L'esprit, c'est la foi paradoxale. Je compte pas sur mes forces, je compte sur le Seigneur, mais je fais ma part. je renonce. Et j'accepte la vie. Et je dis des paroles de bénédiction. Parole bénédiction, c'est très important. C'est ce que mes mots prononcent et qui bénissent les autres. On doit être un peuple de bénédiction. Un peuple qui bénissons les autres. Et j'étais content ce matin du témoignage de Laurence. Et que ces témoignages puissent continuer à grandir. C'est les plus beaux miracles dans l'Église qui puissent arriver. C'est que nous puissions être un peuple de bénédiction. Même si nous avons les plus grands ennemis, nous les bénissons. Nous n'allons pas à chercher, à fouiller dans leur vie. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes de ceux qui bénissent. Amen. Que le Seigneur nous aide à être dans ce monde des lumières qui rayonnons de la gloire de Dieu. Amen. Et nous te prions afin que tu nous aides dans cette génération à manifester, Seigneur, que nous sommes disciples de Christ. Que, Seigneur, nous ne cherchons pas à trouver nous-mêmes notre voie à vivre, mais que nous acceptions de la perdre pour la gagner, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, tu es la vie. Et Seigneur, que nous puissions accepter de vivre ces deux choses en même temps, parce qu'elle échappe à notre raison, elle échappe à notre logique, elle échappe à notre sagesse. Mais Seigneur, c'est ta sagesse qu'il a voulu, de manière à ce que jamais nous nous appuyions sur nous-mêmes ni sur l'homme, mais que nous nous appuyions sur toi. Alors merci pour cette sagesse, mais donne-nous de pouvoir la vivre à chaque instant et dans la semaine qui vient. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.